Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlot de Laclos. Lettre 145. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Sérieusement, vicomte, vous avez quitté la présidente? Vous lui avez envoyé la lettre que je vous avais faite pour elle? En vérité, vous êtes charmant. Et vous avez surpassé mon attente. J'avoue de bonne foi que ce triomphe me flatte plus que tous ceux que j'ai pu obtenir jusqu'à présent. Vous allez trouver peut-être que j'évalue bien haut cette femme que naguère j'appréciais si peu. Point du tout. Mais c'est que ce n'est pas sur elle que j'ai remporté cet avantage. C'est sur vous. Voilà le plaisant et ce qui est vraiment délicieux. Oui, vicomte, vous aimiez beaucoup Madame de Tourvel, et même, vous l'aimez encore. Vous l'aimez comme un fou, mais parce que je m'amusais à vous en faire honte, vous l'avez bravement sacrifiée. Vous en auriez sacrifié 1000 plutôt que de souffrir une plaisanterie. Où nous conduit pourtant la vanité? Le sage a bien raison quand il dit qu'elle est l'ennemie du bonheur. Où en seriez-vous à présent si je n'avais voulu que vous faire une malice? Mais je suis incapable de tromper, vous le savez bien. Et dussiez-vous, à mon tour, me réduire au désespoir et au couvent, j'encours les risques et je me rends à mon vainqueur. Cependant, si je capitule, c'est en vérité pure faiblesse. Car si je voulais, que de chicanes n'aurais-je pas encore à faire? Et peut-être le mériteriez-vous. J'admire, par exemple, avec quelle finesse ou quelle gaucherie vous me proposez en douceur de vous laisser renouer avec la présidente. Il vous conviendrait beaucoup, n'est-ce pas, de vous donner le mérite de cette rupture sans y perdre les plaisirs de la jouissance. Et comme alors cet apparent sacrifice n'en serait plus un pour vous, vous m'offrez de le renouveler à ma volonté. Par cet arrangement, la céleste dévote se croirait toujours l'unique choix de votre cœur, tandis que je m'enorgueillirais d'être la rivale préférée. Nous serions trompés toutes deux, mais vous seriez contents, et qu'importe le reste. C'est dommage qu'avec tant de talent pour les projets, vous en ayez si peu pour l'exécution, et que par une seule démarche inconsidérée, vous ayez mis vous-même un obstacle invincible à ce que vous désirez le plus. Quoi ? Vous aviez l'idée de renouer, et vous avez pu écrire ma lettre ? Vous m'avez donc cru bien gauche à mon tour. Ah, croyez-moi, vicomte, quand une femme frappe dans le cœur d'une autre, elle manque rarement de trouver l'endroit sensible, et la blessure est incurable. Tandis que je frappais celle-ci, ou plutôt que je dirigeais vos coups, je n'ai pas oublié que cette femme était ma rivale, que vous l'aviez trouvée un moment préférable à moi, et qu'enfin, vous m'aviez placée au-dessous d'elle. Si je me suis trompée dans ma vengeance, je consens à en porter la faute. Ainsi, je trouve bon que vous tentiez tous les moyens. Je vous y invite même, et vous promets de ne pas me fâcher de vos succès, si vous parvenez à en avoir. Je suis si tranquille sur cet objet que je ne veux plus m'en occuper. Parlons d'autre chose. Par exemple, de la santé de la petite Volange. Vous m'en direz des nouvelles positives à mon retour, n'est-il pas vrai? Je serai bien aise d'en avoir. Après cela, ce sera à vous de juger s'il conviendra mieux de remettre la petite fille à son amant ou de tenter de devenir une seconde fois le fondateur d'une nouvelle branche des Valmont sous le nom de Gercourt. Cette idée m'avait paru assez plaisante et en vous laissant le choix, je vous demande pourtant de ne pas prendre de parti définitif sans que nous en ayons causé ensemble. Ce n'est pas vous remettre à un terme éloigné car je serai à Paris incessamment. Je ne peux pas vous dire positivement le jour. Mais vous ne doutez pas que dès que je serai arrivé, vous n'en soyez le premier informé. Adieu, vicomte. Malgré mes querelles, mes malices et mes reproches, je vous aime toujours beaucoup et je me prépare à vous le prouver. Au revoir, mon ami.
To the bottom of my toes, shaking all over like nobody knows. Put your head on my shoulder.
shoulder and your hand on my knee. Loosen up, baby, now mama can't see. All I can do is hold on tight and make it together all through the night. Mama don't mind what mama don't see. It's getting so hot that you're burning me. Well, it ain't easy to figure out the way I feel. Somehow, honey, it don't seem real. You lit the fire of my desire. Now the flames of love burn high and high. Every little word you say to me. Oh. Come on now, honey. Let's slow it all down. Just a little. I want to feel your touch. 'Cause, honey, you know you make me shake. And I just want you to loosen up a little bit for me. Oh, honey. You know what I want.
I want to touch too much of your tender love. A touch too much of your good, good loving. A touch too much of your tender love. Now I'm running a fever of 90 above. I want to touch too much of your tender love. A touch too much of your good, good loving. A touch too much of your tender love. Of 90 above.
Lettre 146. La marquise de Merteuil au chevalier Danceny. Enfin, je pars, mon jeune ami, et demain au soir, je serai de retour à Paris. Au milieu de tous les embarras qu'entraîne un déplacement, je ne recevrai personne. Cependant, si vous avez quelques confidences bien pressées à me faire, je veux bien vous accepter de la règle générale. Mais je n'accepterai que vous. Ainsi, je vous demande le secret sur mon arrivée. Valmont même n'en sera pas instruit. Qui m'aurait dit, il y a quelque temps, que bientôt vous auriez ma confiance exclusive? Je ne l'aurais pas cru. Mais la vôtre a entraîné la mienne. Je serais tentée de croire que vous y avez mis de l'adresse, peut-être même de la séduction. Ce serait bien mal, au moins. Au reste, elle ne serait pas dangereuse à présent. Vous avez vraiment bien autre chose à faire. Quand l'héroïne est en scène, on ne s'occupe guère de la confidente. Aussi n'avez-vous seulement pas eu le temps de me faire part de vos nouveaux succès. Quand votre Cécile était absente, les jours n'étaient pas assez longs pour écouter vos tendres plaintes. Vous les auriez faites aux échos si je n'avais pas été là pour les entendre. Quand depuis elle a été malade, vous m'avez même encore honoré du récit de vos inquiétudes. Vous aviez besoin de quelqu'un à qui les dire. Mais à présent que celle que vous aimez est à Paris, qu'elle se porte bien, et surtout que vous la voyez quelquefois, elle suffit à tout et vos amis ne vous sont plus rien. Je ne vous en blâme pas, c'est la faute de vos 20 ans. Depuis Alcibiade jusqu'à vous, ne sait-on pas que les jeunes gens n'ont jamais connu l'amitié que dans leur chagrin? Le bonheur les rend quelquefois indiscrets, mais jamais confiants. Je dirais bien comme Socrate, j'aime que mes amis viennent à moi quand ils sont malheureux. Marmontel, conte moral d'Alcibiade. Mais en sa qualité de philosophe, il se passait bien d'eux quand ils ne venaient pas. En cela, je ne suis pas tout à fait si sage que lui, et j'ai senti votre silence avec toute la faiblesse d'une femme. N'allez pourtant pas me croire exigeante, il s'en faut bien que je le sois. Le même sentiment qui me fait remarquer ses privations me les fait supporter avec courage quand elles sont la preuve ou la cause du bonheur de mes amis. Je ne compte donc sur vous pour demain soir qu'autant que l'amour vous laissera libre et désoccupé, et je vous défends de me faire le moindre sacrifice. Adieu, chevalier. Je me fais une vraie fête de vous revoir. Viendrez-vous ? Lettre 147. Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. Vous serez sûrement aussi affligée que je le suis, ma digne amie, en apprenant l'état où se trouve Madame de Tourvel. Elle est malade depuis hier. Sa maladie a pris si vivement et se montre avec des symptômes si graves que j'en suis vraiment alarmée. Une fièvre ardente, un transport violent et presque continuel, une soif qu'on ne peut apaiser, voilà tout ce qu'on remarque. Les médecins disent ne pouvoir rien pronostiquer encore. Et le traitement sera d'autant plus difficile que la malade refuse avec obstination toute espèce de remède. C'est au point qu'il a fallu la tenir de force pour la saigner. Et il a fallu depuis en user de même deux autres fois pour lui remettre sa bande, que dans son transport elle veut toujours arracher. Vous qui l'avez vue comme moi, si peu forte, si timide et si douce, concevez-vous donc que quatre personnes puissent à peine la contenir et que pour peu qu'on veuille lui représenter quelque chose, elle entre dans des fureurs inexprimables ? Pour moi, je crains qu'il n'y ait plus que du délire, que ce ne soit une vraie aliénation de l'esprit. Ce qui augmente ma crainte à ce sujet, c'est ce qui s'est passé avant-hier. Ce jour-là, elle arriva vers les 11 heures du matin avec sa femme de chambre au couvent de... Comme elle a été élevée dans cette maison et qu'elle a conservé l'habitude d'y entrer quelquefois, elle y fut reçue comme à l'ordinaire et elle parut à tout le monde tranquille et bien portante. Environ 2 heures après, elle s'informa si la chambre qu'elle occupait, étant pensionnaire, était vacante. Et sur ce qu'on lui répondit que oui, elle demanda d'aller la revoir. La prieure l'y accompagna avec quelques autres religieuses. Ce fut alors qu'elle déclara qu'elle revenait s'établir dans cette chambre que, disait-elle, elle n'aurait jamais dû quitter, et qu'elle ajouta qu'elle n'en sortirait qu'à la mort. Ce fut son expression. D'abord, on ne sut que dire, mais le premier étonnement passé, on lui représenta que sa qualité de femme mariée ne permettait pas de la recevoir sans une permission particulière. Cette raison, ni mille autres n'y firent rien. Et dès ce moment, elle s'obstina non seulement à ne pas sortir du couvent, mais même de sa chambre. Enfin, de guerre lasse, à 7 heures du soir, on consentit qu'elle y passât la nuit. On renvoya sa voiture et ses gens, et on remit au lendemain à prendre un parti. On assure que pendant toute la soirée, loin que son air ou son maintien eussent rien d'égaré, l'un et l'autre étaient composés et réfléchis. Que seulement elle tomba 4 ou 5 fois dans une rêverie si profonde qu'on ne parvenait pas à l'en tirer en lui parlant, et que chaque fois, avant d'en sortir, elle portait les deux mains à son front qu'elle avait l'air de serrer avec force. Sur quoi, une des religieuses qui était présente lui ayant demandé si elle souffrait de la tête, elle la fixa longtemps avant de répondre, et lui dit enfin « Ce n'est pas là qu'est le mal ». Un moment après, elle demanda qu'on la laissât seule, et pria qu'à l'avenir, on ne lui fît plus de questions. Tout le monde se retira. Or, sa femme de chambre, qui devait heureusement coucher dans la même chambre qu'elle, faute d'autre place. Suivant le rapport de cette fille, sa maîtresse a été assez tranquille jusqu'à 11 heures du soir. Elle a dit alors vouloir se coucher. Mais avant d'être entièrement déshabillée, elle se mit à marcher dans sa chambre, avec beaucoup d'actions et de gestes fréquents. Julie, qui avait été témoin de ce qui s'était passé dans la journée, n'osa rien lui dire et attendit en silence pendant près d'une heure. Enfin, Madame de Tourvel l'appela 2 fois, coup sur coup. Elle n'eut que le temps d'accourir et sa maîtresse tomba dans ses bras en disant « Je n'en peux plus ». Elle se laissa conduire à son lit et ne voulut rien prendre, ni qu'on allât chercher aucun secours. Elle se fit mettre seulement de l'eau auprès d'elle et elle ordonna à Julie de se coucher. Celle-ci assure être restée jusqu'à 2 heures du matin sans dormir et n'avoir entendu pendant ce temps ni mouvement ni plainte. Mais elle dit avoir été réveillée à 5 heures par les discours de sa maîtresse qui parlait d'une voix forte et élevée. Et qu'alors, lui ayant demandé si elle n'avait besoin de rien et n'obtenant point de réponse, elle prit de la lumière et alla au lit de Madame de Tourvel qui ne la reconnut point. Mais qui, interrompant tout à coup les propos sans suite qu'elle tenait, s'écria vivement « Qu'on me laisse seule, qu'on me laisse dans les ténèbres, Ce sont les ténèbres qui me conviennent. » J'ai remarqué hier par moi-même que cette phrase lui revient souvent. Enfin, Julie profita de cette espèce d'ordre pour sortir et aller chercher du monde et des secours. Mais Madame de Tourvel a refusé l'un et l'autre, avec les fureurs et les transports qui sont revenus si souvent depuis. L'embarras où cela a mis tout le couvent a décidé la prieure à m'envoyer chercher hier à 7 heures du matin. Il ne faisait pas jour. Je suis accourue sur le champ. Quand on m'a annoncé à Madame de Tourvel, elle a paru reprendre sa connaissance et a répondu « Ah oui, qu'elle entre !» Mais quand j'ai été près de son lit, elle m'a regardée fixement, a pris vivement ma main, qu'elle a serrée, et m'a dit d'une voix forte mais sombre « Je meurs pour ne pas vous avoir cru. » Aussitôt après, se cachant les yeux, elle est revenue à son discours le plus fréquent, qu'on me laisse seule, etc. Et toute connaissance s'est perdue. Ce propos qu'elle m'a tenu et quelques autres échappés dans son délire me font craindre que cette cruelle maladie n'ait une cause plus cruelle encore. Mais respectons les secrets de notre amie et contentons-nous de plaindre son malheur. Toute la journée d'hier a été également orageuse et partagée entre des accès de transport effrayants et des moments d'un abattement léthargique, les seuls où elle prend et donne quelques repos. Je n'ai quitté le chevet de son lit qu'à 9 heures du soir, et je devais y retourner ce matin pour toute la journée. Sûrement, je n'abandonnerai pas ma malheureuse amie. Mais ce qui est désolant, c'est son obstination à refuser tous les soins et tous les secours. Je vous envoie le bulletin de cette nuit que je viens de recevoir, et qui, comme vous le verrez, n'est rien moins que consolant. J'aurai soin de vous les faire passer tous exactement. Adieu, ma digne amie, je vais retrouver la malade. Ma fille, qui heureusement est presque rétablie, vous présente son respect. Lettre 58. Le chevalier Danceny à la marquise de Merteuil. Ô vous que j'aime, ô toi que j'adore, ô vous qui avez commencé mon bonheur, ô toi qui l'as comblé, amie sensible, tendre amante, pourquoi le souvenir de ta douleur vient-il troubler le charme que j'éprouve? Ah, madame, calmez-vous, c'est l'amitié qui vous le demande. Ô mon amie, sois heureuse, c'est la prière de l'amour. Et quel reproche avez-vous donc à vous faire? Croyez-moi, votre délicatesse vous abuse. Les regrets qu'elle vous cause, les torts dont elle m'accuse, sont également illusoires. Et je sens dans mon cœur qu'il y a eu entre nous deux d'autres séducteurs que l'amour. Ne crains donc plus de te livrer aux sentiments que tu inspires, de te laisser pénétrer de tous les feux que tu fais naître? Quoi? Pour avoir été éclairés plus tard, nos cœurs en seraient-ils moins purs? Non, sans doute. C'est au contraire la séduction qui, n'agissant jamais que par projet, peut combiner sa marche et ses moyens, et prévoir au loin les événements. Mais l'amour véritable ne permet pas ainsi de méditer et de réfléchir. Il nous distrait de nos pensées par nos sentiments. Son empire n'est jamais plus fort que quand il est inconnu. Et c'est dans l'ombre et le silence qui nous entourent de liens qu'il est également impossible d'apercevoir et de rompre. C'est ainsi qu'hier même, malgré la vive émotion que me causait l'idée de votre retour, malgré le plaisir extrême que je sentis en vous voyant, je croyais pourtant n'être encore appelé ni conduit que par la paisible amitié. Ou plutôt, entièrement livré aux doux sentiments de mon cœur, je m'occupais bien peu d'en démêler l'origine ou la cause. Ainsi que moi, ma tendre amie, tu éprouvais, sans le connaître, ce charme impérieux qui livrait nos âmes aux douces impressions de la tendresse. Et tous deux, nous n'avons reconnu l'amour qu'en sortant de l'ivresse où ce Dieu nous avait plongés. Mais cela même nous justifie au lieu de nous condamner. Non, tu n'as pas trahi l'amitié et je n'ai pas davantage abusé de ta confiance. Tous deux, il est vrai, nous ignorions nos sentiments. Mais cette illusion, nous l'éprouvions seulement sans chercher à la faire naître. Ah, loin de nous en plaindre, ne songeons qu'au bonheur qu'elle nous a procuré. Et sans le troubler par d'injustes reproches, ne nous occupons qu'à l'augmenter encore par le charme de la confiance et de la sécurité. Ô mon ami, que cet espoir est cher à mon cœur. Oui, désormais délivré de toute crainte et tout entière à l'amour, tu partageras mes désirs, mes transports, le délire de mes sens, l'ivresse de mon âme. Et chaque instant de nos jours fortunés sera marqué par une volupté nouvelle. Adieu, toi que j'adore. Je te verrai ce soir, mais te trouverai-je seule? Je n'ose l'espérer. Ah, tu ne le désires pas autant que moi. Lettre 149. Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. J'ai espéré hier, presque toute la journée, ma digne amie, pouvoir vous donner ce matin des nouvelles plus favorables de la santé de notre cher malade. Mais depuis hier au soir, cet espoir est détruit, et il ne me reste que le regret de l'avoir perdu. Un événement, bien indifférent en apparence, mais bien cruel par les suites qu'il a eues, a rendu l'état de la malade au moins aussi fâcheux qu'il était auparavant, si même il n'a pas empiré. Je n'aurais rien compris à cette révolution subite si je n'avais reçu hier l'entière confidence de notre malheureuse amie, comme elle ne m'a pas laissé ignorer que vous étiez instruite aussi de toutes ces infortunes, je puis vous parler sans réserve sur sa triste situation. Hier matin, quand je suis arrivée au couvent, on me dit que la malade dormait depuis plus de 3 heures. Et son sommeil était si profond et si tranquille que j'eus peur un moment qu'il ne fût léthargique. Quelque temps après, elle se réveilla et ouvrit elle-même les rideaux de son lit. Elle nous regarda tous avec l'air de la surprise. Et comme je me levais pour aller à elle, elle me reconnut, me nomma et me pria d'approcher. Elle ne me laissa le temps de lui faire aucune question et me demanda où elle était, ce que nous faisions là, si elle était malade et pourquoi elle n'était pas chez elle. Je crus d'abord que c'était un nouveau délire, seulement plus tranquille que le précédent. Mais je m'aperçus qu'elle entendait fort bien mes réponses. Elle avait en effet retrouvé sa tête, mais non pas sa mémoire. Elle me questionna avec beaucoup de détails sur tout ce qui lui était arrivé depuis qu'elle était au couvent, où elle ne se souvenait pas d'être venue. Je lui répondis exactement, en supprimant seulement ce qui aurait pu la trop effrayer. Et lorsqu'à mon tour je lui demandais comment elle se trouvait, elle me répondit qu'elle ne souffrait pas dans ce moment, mais qu'elle avait été bien tourmentée pendant son sommeil et qu'elle se sentait fatiguée. Je l'engageai à se tranquilliser et à parler peu. Après quoi, je refermai en partie ses rideaux que je laissai entr'ouverts et je m'assis auprès de son lit. Dans le même temps, on lui proposa un bouillon qu'elle prit et qu'elle trouva bon. Elle resta ainsi environ une demi-heure, durant laquelle elle ne parla que pour me remercier des soins que je lui avais donnés. Et elle mit dans ses remerciements l'agrément et la grâce que vous lui connaissez. Ensuite, elle garda pendant quelque temps un silence absolu, qu'elle ne rompit que pour dire « Ah oui, je me ressouviens d'être venue ici. » Et un moment après, elle s'écria douloureusement, « mon ami, plaignez-moi, je retrouve tous mes malheurs. » Comme alors je m'avançais vers elle, elle saisit ma main et s'y appuyant la tête, « Grand Dieu, continua-t-elle, ne puis-je donc mourir ?» Son expression, plus encore que ses discours, m'attendrit jusqu'aux larmes. Elle s'en aperçut à ma voix et me dit, « Vous me plaignez, ah, si vous connaissiez !» Et puis s'interrompant, « Faites qu'on nous laisse seuls, je vous dirai tout. » Ainsi que je crois vous l'avoir marqué, j'avais déjà des soupçons sur ce qui devait faire le sujet de cette confidence. Et craignant que cette conversation, que je prévoyais devoir être longue et triste, ne nuisit peut-être à l'état de notre malheureuse amie, je m'y refusai d'abord, sous prétexte qu'elle avait besoin de repos. Mais elle insista, et je me rendis à ses instances. Dès que nous fûmes seuls, elle m'apprit tout ce que déjà vous avez su d'elle, et que par cette raison, je ne vous répéterai point. Enfin, en me parlant de la façon cruelle dont elle avait été sacrifiée, elle ajouta « Je me croyais bien sûr d'en mourir, et j'en avais le courage. Mais de survivre à mon malheur et à ma honte, c'est ce qui m'est impossible. » Je tentai de combattre ce découragement, ou plutôt ce désespoir, avec les armes de la religion, jusqu'alors si puissantes sur elle. Mais je sentis bientôt que je n'avais pas assez de force pour ses fonctions augustes, et je m'en tins à lui proposer d'appeler le père Anselme, que je sais avoir toute sa confiance. Elle y consentit, et parut même le désirer beaucoup. On l'envoya chercher, en effet, et il vint sur le champ. Il resta fort longtemps avec la malade, et dit en sortant que si les médecins en jugeaient comme lui, ils croyaient qu'on pouvait différer la cérémonie des sacrements, qu'il reviendrait le lendemain. Il était environ 3 heures après-midi, et jusqu'à 5, notre ami fut assez tranquille, en sorte que nous avions tous repris de l'espoir. Par malheur, on apporta alors une lettre pour elle. Quand on voulut la lui remettre, elle répondit d'abord n'en vouloir recevoir aucune, et personne n'insista. Mais de ce moment, elle parut plus agitée. Bientôt après, elle demanda d'où venait cette lettre. Elle n'était pas timbrée. Qui l'avait apportée? On l'ignorait. De quelle part on l'avait remise? On ne l'avait pas dit aux tourières. Ensuite, elle garda quelque temps de silence. Après quoi, elle recommença à parler, mais ses propos sans suite nous apprirent seulement que le délire était revenu. Cependant, il y eut encore un intervalle tranquille, jusqu'à ce qu'enfin elle demanda qu'on lui remît la lettre qu'on avait apportée pour elle. Dès qu'elle eut jeté les yeux dessus, elle s'écria « De lui, grand Dieu !» et puis d'une voix forte mais oppressée « Reprenez-la, reprenez-la !» Elle fit sur le champ fermer les rideaux de son lit et défendit que personne approchât. Mais presque aussitôt, nous fûmes bien obligés de revenir auprès d'elle. Le transport avait repris, plus violent que jamais, et il s'y était joint des convulsions vraiment effrayantes. Ces accidents n'ont plus cessé de la soirée, et le bulletin de ce matin m'apprend que la nuit n'a pas été moins orageuse. Enfin, son état est tel que je m'étonne qu'elle n'y ait pas déjà succombé, et je ne vous cache point qu'il ne me reste que peu d'espoir. Je suppose que cette malheureuse lettre est de M. de Valmont, mais que peut-il encore oser lui dire ? Pardon, ma chère amie, je m'interdis toute réflexion. Mais il est bien cruel de voir périr si malheureusement une femme, jusqu'alors si heureuse et si digne de l'être. »